Oui, donc c'est vrai que Miyazaki a annoncé sa retraite après Le Vent se lève. Donc déjà, est-ce qu'on doit y croire, sachant qu'il a déjà commencé à annoncer sa retraite, enfin qu'il a déjà annoncé sa retraite en 1997 après Princesse Mononoké, qui était censé être son dernier film. Et finalement, il est revenu sur sa décision quand son successeur, qui était à l'époque
Yoshifumi Kondo.
Yoshifumi Kondo, exactement. Donc c'est le réalisateur de Si tu tends l'oreille, est décédé dans un accident de voiture, et c'est la raison pour laquelle finalement, comme il n'y avait pas de successeur officiel à Ghibli, et que Takahata était déjà aussi à un certain âge, vu que c'est l'aîné de Miyazaki, il était revenu sur sa décision. Alors, donc est-ce qu'on doit croire à cette retraite annoncée? Ce qui voudrait dire, selon toute vraisemblance, qu'il y aurait des successeurs à Ghibli, et si c'est le cas, quels sont-ils d'après vous?
De toute façon, même s'il réalise plus, il restera dans les parages, vu que de toute façon, il était quand même. Même ceux qu'il a, hormis les Takahata, même ceux qu'il n'a pas réalisé, il était quand même derrière niveau scénar, niveau production. Enfin, il serrait quand même pas mal la vis à tous ceux qui ont pu réaliser des films hors des siens, à part Takahata. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, parce qu'à part Si tu tends l'oreille. Et puis les Takahata, les autres Ghibli hors. Si, bah si à part la colline des coquelicots aussi.
Et
Enfin
encore,
bon, on n'est
ça
pas
ressemble à
d'accord
Miyazaki.
tous, mais bon,
Ouais, je
pour
suis d'accord avec toi.
moi c'est un grand film aussi. Mais à part ça, les autres, Arrietty, c'était un espèce de décalque Canada Dry de Totoro. C'était quand même pas terrible, quoi. Enfin, visuellement, t'as le savoir-faire de Ghibli, mais thématiquement, moi, je trouvais ça quand même. C'était vraiment du copier-coller sans âme. Parce qu'en plus, t'as un cahier des charges quand même Ghibli où t'es quand même pas super libre.
Le premier Gorō Miyazaki était comme ça d'ailleurs. Les
Et
contes de Terre-Mère.
ouais, on a l'impression qu'il y a soit les Miyazaki et les Takahata qui sont quand même très à part, et c'est le cofondateur de Ghibli, donc il a une vraie personnalité, et tout le
Et
reste,
il est
c'est
libre.
du sous-Miyazaki, quoi. Genre.
Sauf
Mais est-ce que c'est
si tu
pas.
tends l'oreille, quoi. Où
Non, mais est-ce que
c'était.
c'est pas parce que Miyazaki est derrière et
Oui, mais moi je
que
pense que c'est à cause de ça.
qu'il est qui règne sur
Parce que
son
d'ailleurs,
empire,
t'avais eu
mais.
le, à l'époque, tu avais le château dans le château ambulant. Ça devait être Mamoru Hosoda qui devait le réaliser. Mais Mamoru Hosoda, il a sa propre personnalité. Et puis, ils ne se sont pas entendus. Donc, du coup, voilà, ça a clashé. Miyazaki a fini par le faire. Et à mon avis, c'est à cause de ça. Miyazaki est un peu dictateur.
Mais de toute façon, voilà, Miyazaki, Takahata, de toute façon, sont pas éternels. Donc, au bout d'un moment, même si on se pose la question de sa retraite, je veux dire, bon, il va pas pouvoir faire des films ad vitam, mais et on peut se demander, ce qui va se passer pour Ghibli après, parce que là, pour
Ouais,
l'instant,
parce que si nos successions.
voilà.
Bah, t'as moi, Goro, j'y crois. Hein,
Voilà.
Goro
Moi, Gorō, j'y crois
Miyazaki.
aussi,
Il peut
ouais.
évoluer dans son cinéma, il peut avoir
Parce que, quand
attiré
même,
vraiment
autant.
Oh, mais il y a
sa
Miyazaki,
propre personnalité.
il y a son père derrière.
Bah,
Donc,
au scénar, mais finalement, le film, ça ressemble pas à du Miyazaki, quand même, qu'on ait des coquelicots. Ça ressemble plus à du
c'est du
Takahata.
Takahata,
Pour moi,
ouais.
c'est du
Ouais, mais
Takahata.
voilà, il y a les influences qui sont là, donc c'est pareil, quoi. Miyazaki,
Oui, mais tu
Takahata,
sens qu'il a quand même fait son truc par rapport à Arrietty, où c'est sans
Oui, non, là,
âme. C'est
vraiment,
vraiment, il n'y a pas d'âme,
oui.
quoi. Même le royaume des chats, c'était mignon, mais bon, comparé, c'est la suite.
Pseudo
Pseudo-suite
suite,
de
ouais.
Si tu tends l'oreille, bon, il n'y a pas photo non plus, donc tu sens qu'il y a des réalisateurs qui peuvent quand même qui peuvent imposer un peu leur personnalité si on les laisse.
Dans la colline à coquelicots, on retrouve quand même pas mal d'éléments similaires à Ponyo, je crois, par rapport au bateau.
Oui, mais bon, c'est
Mais
plus la fascination
ouais.
pour la mer, mais c'est un côté traditionnel qui me
Voilà.
fait plus
C'est
penser à
ça.
Takahata que
C'est
Miyazaki,
ça
quoi.
qu'il y a un gros côté, ouais, il y a un gros côté de Takahata, ouais. Mais c'est pareil, quoi, il y a une influence, et que il y a au bout d'un moment, il va falloir que les auteurs se détachent un peu de ça, sinon Ghibli, ça va sombrer, ça va devenir Disney, quoi.
Parce que si tu tends l'oreille, moi je trouvais il y avait quelque chose, qu'il y avait vraiment, tu sens l'esprit Ghibli, mais tu sentais que le réal avait sa patte, quoi.
Ah,
C'est vraiment
c'est un passage,
dommage.
j'ai l'impression qu'il y a l'esprit Ghibli qui en fait est incarné par Miyazaki et Takahata, et sinon c'est juste une marque et un savoir-faire
Exactement.
qui, bah, exactement
Bah, après
comme
eux, ouais,
Disney,
ça va être
quoi.
compliqué quand
Et Disney a su rebondir plusieurs fois. Il y a eu des cycles,
même.
voilà, de 10 ans, 15 ans. Il y a eu la période Retterman, la période Jeronimi, ou trucs comme ça.
Et puis ils ont dû, Disney est mort à un moment donné, donc ils ont dû quand même
Voilà.
répondre
Mais ils ont rebondi.
Et ils savaient bien s'entourer Disney malgré
Voilà.
tout.
Et là, avec la 7 heures, je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée d'intéressant. Et Ghibli va devoir passer par le même processus, parce que là, ils vont se retrouver avec un Miyazaki qui veut peut-être plus investir, un Takahata qui sort un film bientôt, mais qui est
assez vieux. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu, en plus.
On a l'impression qu'ils sortent des films un peu par défaut, parce que personne n'arrive à prendre un peu le...
Mais ils n'ont pas laissé quelqu'un...
Oui, ils ne laissent pas, c'est paradoxal, oui.
C'est pas que...
Vas-y, Nicolas.
Non, juste après, le nouveau Takahata a l'air quand même assez différent dans son processus de ce qu'on a pu voir chez Ghibli, je trouve. Enfin, je sais pas, pour l'instant, je me
réfère au bandes annonces.
Takahata a toujours été un peu en marge, mais là, ça a l'air quand même... Ça ouvre vers quelque chose d'autre, quand même.
Je trouve pas qu'il est en marge, parce que c'est aussi l'essentiel de Ghibli. Enfin, il l'a confondé en 85. Sur l'autre réalisateur.
Pour les Européens, entre guillemets, c'est quand même Miyazaki qui a été beaucoup plus mis en avant par rapport à Takahata. Je pense que tu interroges n'importe qui dans la rue, tu lui demandes si t'es un film de Miyazaki ou si t'es un film de Takahata, il va te sortir un film de Miyazaki en premier. Quoi.
Oui, mais même le Tombeau des Lucioles, ça a quand même marqué. Y a pas mal de gens qui.
C'est un des animes les plus connus du monde.
Quand même, mais y a, c'est peut-être l'anime le plus connu du monde, mais. Peut-être que je pense que les gens
savent pas que c'est Takahata,
c'est lui qui a fait ça, tu vois.
C'est possible. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, Ghibli égale Miyazaki.
Voilà.
C'est pareil, voilà.
Et puis aussi, Takahata, il a sa patte, enfin, il dessine pas, donc il n'est pas contraint par le côté, la ligne esthétique de Ghibli, tu vois, quelque chose comme mes voisins, les Yamada, où c'est à l'aquarelle, enfin, il a une côté... Vu qu'il dessine pas, il est assez libre dans son esthétique. Il y a certains films où tu sens la ligne claire de Ghibli, Pompoko... le Tombeau des Lucioles ou d'autres, et t'en as d'autres qui sont quasi expérimentaux comme les voisins les Yamada où vraiment ils tentent des choses.
Le prochain c'est un peu pareil quoi. Ça s'inspire je pense des esquisses japonaises là. Et c'est,
Il est quand même capable de se libérer de ce côté là, il est quand même assez libre aussi. Ouais.
Et c'est ça qui fait la beauté de son cinéma aussi. Ouais. Quoi. C'est...
Il est moins contraint que. Enfin, il se sent moins obligé de s'inscrire
dans la ligne. C'est plus systématique.
Mais après, c'est vrai qu'au niveau risque collaborer...
Ouais, l'avenir de Ghibli, moi...
Parce qu'à part Goro...
Ouais, puis après, il y a surtout de la concurrence à côté. Quand tu vois ce que fait Mamoru Hosoda, par exemple, maintenant...
Ah oui, c'est clair.
C'est un peu...
Parce que les enfants loups, c'est le meilleur Ghibli officiel.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, donc,
c'est ça. Même le voyage vers Agartha, bon, tu sentais l'influence, mais ça était un petit peu autre chose. Mais c'est vrai que les enfants loups, ça aurait pu être fait à Ghibli, quoi. J'étais...
Ouais.
Donc voilà, peut-être que l'avenir des studios Ghibli est en dehors de Ghibli, finalement.
Des Ghibli parce que t'as plein de gens qui font du simili Ghibli, voyage vers Agartha ou chez du simili Ghibli, mais ça a quelques petites différences, et ça reste intéressant. Puis bon, les enfants loups, enfin donc du coup... Et puis t'as plein d'autres films aussi, le côté, là on a eu Lettre à Momo, c'est l'esprit campagnard, l'esprit rural de Takahata, enfin tu en sens ce côté-là. T'avais Un été avec Kou qui était sorti il y a quelques années où c'est pareil, c'est l'esprit de, comment il s'appelait, Souvenir goutte à goutte. C'est là un peu le film fondateur de tous ces animés un peu ruraux qui vantent l'esprit de la campagne.
Même ailleurs, on se détache pas de Ghibli, quoi. Ouais. C'est quand même assez impressionnant.
Mais ils arrivent à proposer autre chose comme ça.
Ils ont laissé une telle marque dans le cinéma d'animation japonais. Ouais.
Encore une fois, c'est la comparaison avec Disney, se justifie.
Est-ce que c'est pas justement ça une erreur de Ghibli, c'est une erreur de Ghibli, le fait de pas avoir su créer d'autres réalisateurs avec une empreinte aussi forte que peuvent l'être celles de Miyazaki et Takahata.
Non, parce qu'il y a aussi une volonté de créer
de continuité, du coup ça fait comme Disney.
De toute façon on a toujours dit que c'était le Disney japonais et c'est pas pour rien quoi.
Sauf que Disney ils ont su quand même, tu vois Aladdin, tu compares avec des premiers avec Cendrillon, bon.
Mais comme je disais tout à l'heure, c'est que c'était par vague. Ouais. Ils ont su renouveler, c'est clair, il y a une politique où ils ont renouvelé un peu le trait, ils ont renouvelé le style, le ton.
Ouais.
Alors que Ghibli t'as
pas
que,
ça, il y a pas ça.
Et là est-ce que c'est une supposition qui n'est peut-être absolument pas fondée, mais est-ce que vous pensez que le fait que Hideaki Anno fasse une voix et était contacté par Miyazaki, alors qu'il a fait il a commencé chez Ghibli et puis ensuite il a fait des choses complètement différentes avec Nadia, c'est assez proche finalement dans l'univers, mais Evangelion ça n'a plus rien à voir. Est-ce que c'est pas une forme d'appel du pied pour dire il peut y avoir d'autres réalisateurs qui viennent de Ghibli et qui pourraient faire quelque chose au sein du
Ghibli quand même.
D'ailleurs, Nadia, je crois que ça devait être produit par Ghibli à l'époque, finalement c'est Gainax qui a récupéré quand ils l'ont fondé, je crois que c'était ça l'histoire. Mais après, Anno, c'est un univers aux antipodes, je ne vois pas du tout se fondre dans le moule de Ghibli.
C'était ça le problème de Ghibli, quoi, c'est que c'est trop conservateur et qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur
carcan. Il n'y a pas du tout ce côté conservateur et justement, il embrasse complètement la modernité.
Politiquement, c'est pas pareil. Quoi. C'est pas,
c'est
plus engagé,
c'est plus
expérimental aussi.
Parce que quand on voit Hosoda qui a un style qui se fondrait parfaitement à Ghibli et qui n'a pas pu s'imposer, alors qu'on voit les enfants loups... clairement, c'est le film parfait. Et même lui, il n'a pas réussi à s'imposer. On va pas le laisser faire. Donc, bon,
on a l'impression que dès qu'il y a une volonté d'émancipation, c'est un peu difficile pour les auteurs. Il faut vraiment respecter un cahier des charges.
Mais après, t'as un exécutant, ça donne Arrietty. Où le film est niqué, il n'y a rien à dire. C'est beau, mais bon,
c'est faire le procès de Ghibli, là, mais bon.
Non, mais il faut reconnaître aussi un peu
leur... Non, mais les deux fondateurs, ils ont eu du mal à...
Il laisse pas, passer la main, quoi. Voilà. Parce qu'après, on dit qu'on n'a pas trouvé de successeur, etc. Mais c'est peut-être aussi...
C'est un peu de leur faute aussi.
Il faut peut-être attendre le premier scénario original qui ne soit pas fait par Miyazaki, quoi.
Mais il va continuer, ouais.
Oui, il est là, il est toujours dans les parages.
Mais faudrait qu'il démarre
ça. Il veut continuer à faire des courts-métrages. Il va faire du manga aussi, apparemment.
Bon, là, ça va le démanger.
Il y aura le saut. Sur le scénario, il y aura le saut Miyazaki approved.
Parce que même la colline au coquelicot, c'est lui au scénar, quand même.
Ben oui, non mais...
Donc, il faut trouver... Et quel réel vous verriez, hormis Usoda, quel paysage un peu... La japanime, là, qui pourrait...
Moi, justement, j'attends quelqu'un de Ghibli qui n'ait rien à voir avec Ghibli. C'est pour ça que je parlais d'Hideaki Anno. Prendre un réalisateur, jeune ou moins jeune,
mais
qui puisse produire un film qui a absolument rien à voir avec ni avec Miyazaki, ni avec Takahata. Et avoir une nouvelle patte, une nouvelle personnalité.
Parce que moi, je serais curieux, Makoto Shinkai, ce qui serait au sein de Ghibli, quoi. Mais bon.
Oui, surtout avec les moyens et techniquement, ce que ça peut...
Avec deux yens, j'étais capable de faire un cours des choses incroyables, donc bon, il y aurait quand même du potentiel, quoi.
Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'avenir de Ghibli. De toute façon,
on n'est pas très positif.
On est pas très positif. Se lève, là.
Voilà, c'est fini un peu sur la destruction. Il n'y a aucun avion qui ne reviendra de Ghibli. Et on attend quand même vraiment avec impatience le conte du coupeur de bambou de Takahata.
D'ailleurs, ça sort en salle en France.
Il sort en salle en France. Je crois que c'est en mai qui sort, mais je me trompe peut-être. Donc, il faudra vérifier les dates de sortie. De Ghibli en allemand, peut-être les derniers, mais je pense que cette thématique justement de la suite, parce que là on sait que de toute façon il y aura vraisemblablement un grand film qui va venir des studios Ghibli, vu que bon, ça fait des années que t'as Takahata travaille dessus.
Il y en a un autre d'ailleurs, il y a un Ghibli cet été aussi au Japon, hein, par contre. T'as mis par le réalisateur d'Arrietty, que ça sort cet été au Japon.
Si on l'attend moins,
on sait pas. Si on le laisse, on sait jamais, parce que Gorō Miyazaki, après le conte des terres-mères, je pense que personne n'aurait cru qu'il serait capable de faire un aussi bon film après. Donc peut-être si on le laisse faire, peut-être qu'il y a une personnalité, ça s'est pas vu dans Arrietty, mais bon, on sait jamais.
On peut reconnaître à Ghibli de ne jamais être tombé dans la facilité des suites, ce qui finalement...
Ça c'est ce qui a perdu Pixar récemment, d'ailleurs.
Il n'y avait pas une suite à Porco Rosso qui était prévue.
Ils l'ont pas fait.
Ils l'ont pas fait, mais Miyazaki, il était très très chaud quand même.
Parce que c'est ce qui a perdu Pixar et ça. Bon, ça va dire, ils ont commencé à faire des suites où on les a perdus un quart de
deux. Cela dit, Porco Rosso avait un univers qui aurait
pu très bien être
adapté par rapport à une suite, quoi. Voilà.
Bon, bah on verra pour la suite alors, mais de toute façon, cette discussion, on la reprendra donc dans quelques semaines avec le Takahata qu'on attend quand même avec impatience.
On va se refaire une intégrale d'ici là, non ?
Si vous avez un... Non, Jérémy, on n'a pas eu ton film préféré, peut-être, ou ton premier souvenir de Miyazaki.
Mon premier souvenir, c'était Porco Rosso. Je l'avais vu en salle. Et c'était... j'étais jeune. Il est sorti en 95, ça ?
Ouais.
Ouais, j'avais 11 ans. C'était les grands films d'aventure. C'était le doublage. C'était Jean Reno.
Ouais, Jean Reno.
Donc c'était à l'époque Visiteur, tout ça.
Oh, mais c'était un beau doublage quand
même. Ouais, c'était un beau doublage. Il avait fait Le Roi Lion juste avant d'ailleurs. Ouais. C'était un grand film d'aventure qui m'avait emmené assez loin. J'avais bien ri, bien rêvé. Je m'étais dit, je connaissais pas, donc je m'étais dit, putain, c'est quand même bien Miyazaki. Et après, il y a eu Mononoke qui a été vraiment la grosse claque. Et puis, voilà.
D'ailleurs,
Nicolas, on sait, c'est Chihiro, donc
Juste pour Porco Rosso, c'est un peu le grand film romantique de Miyazaki. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours ce décalage avec le fait que ce soit un cochon, finalement, dans les dialogues, dans les situations, ce qui donne au film un peu son originalité, quoi. Dans les dialogues, par exemple, quand il dit « tu vas finir en rôti de porc » ou les trucs comme ça, c'est toujours assez drôle. Voilà, ça donne un côté romantique, parce qu'il y a tous les grandes volées un peu romantiques. européenne, à l'européenne d'ailleurs, et puis il y a ce côté un peu décalé, le fait qu'il soit un cochon, quoi, donc ça donne un film assez,
ouais, c'est drôle,
assez drôle,
c'est drôle, ouais.
C'est assez marrant pour Corosso à l'époque, pour point de vue français, quoi. C'était sorti en 95, c'était en pleine période post, ou encore au Club Dorothée, où la Japanime était super mal vue, c'était censé être violent, machin et tout, c'est Golden Royal et compagnie, et donc du coup... Quand c'est sorti, ça a bidé, ça a fait un bide absolu. Je crois que c'était Jean-Pierre Dionnet qui avait essayé de prévenir, qui l'avait sorti, qui l'avait distribué. Il l'avait un peu mauvaise. Quand tu vois que quelques années plus tard, ça repasse entre les mains de Disney, et puis là, ça explose enfin avec Mononoke et Chihiro. Parce qu'ils avaient sorti, ils n'avaient pas sorti Totoro en salle aussi.
Dans mon souvenir, il est sorti plus tard, Totoro.
Ouais.
Mais il est sorti en salle.
Mais il l'avait sorti, avant Mononoke, enfin entre Mononoke et Chihiro, il avait sorti une sortie un peu plus limitée.
Ouais, et pour enfants. Bon, ouais. Vraiment...
Et ça n'avait pas pris non plus, alors que c'était Jean-Pierre Dionnet et Studio Canal derrière. Donc,
ils étaient en avance, quoi.
Ils étaient trop en avance. Quoi. Ouais. Et du coup, ouais, ça s'est planté les deux fois. Et puis derrière, t'as Mononoke qui ressort. D'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a Mononoke qui était sorti en 98 en salle. Pareil, ça n'avait pas marché plus que ça. Et il l'avait ressorti l'année d'après. Moi, c'est comme ça que je l'avais vu. Je l'avais loupé en 98. Il l'avait ressorti en 2000, je crois. 99 ou 2000, juste avant Chihiro, il l'avait ressorti en salle. Et là, c'est là où ça a commencé à décoller à la deuxième sortie de Mononoke. Mmh. L'année d'après, il y a eu Chihiro.
Chihiro,
là,
c'est celui qui a le plus marché.
Ouais, ouais. Mais il y avait Mononoke qui avait préparé. Alors, la deuxième sortie, parce que pareil, ça avait passé à côté en 98. Et après, en le ressortant 2 ans plus tard, dans la foulée... Chihiro, et puis bon, là, ça a pris, quoi.
Ouais, c'est assez drôle de voir maintenant
l'aura
qu'a Miyazaki, alors que finalement, c'est...
Et puis, il y a l'ours, ils avaient l'ours d'argent à Berlin, l'ours d'or à Berlin aussi,
Chihiro.
Ça a beaucoup aidé aussi, c'est la première fois que tu avais un film d'animation qui avait une récompense majeure dans un festival, ça a aussi pas mal contribué à...
Moi, je me rappelle l'avoir vu Prince Mononoké au Forum des Images, je crois, je sais plus, c'était la Vidéothèque encore, qui présentait, c'était la première édition d'un festival sur l'animation japonaise, mais qui n'existe plus. Et c'est vrai que déjà, il y avait une queue, je me rappelle d'avoir fait la queue pendant 2 heures pour voir Mononoke. Donc, c'était peut-être avant qu'il sorte en salle, justement. Donc, c'était un film qui était très attendu, quoi, déjà.
Il manquait que le grand public.
Et toujours maintenant, bénéficie toujours d'une aura assez folle. Enfin, toutes les grandes projections, comme vous l'avez dit,
à la Projopresse, c'était plein.
Et c'est passé aussi au Carrefour de l'Animation, au Forum des Images, justement, où c'était blindé. En 2 jours, toutes les places ont été.
Et puis la couverture presse aussi, c'est la couverture des cahiers. Il y a une interview dans Positif, c'est un gros article dans Positif, t'as un dossier dans les cahiers, il fait la couve, je crois Télérama aussi. Ouais. Donc maintenant,
c'est vrai que ça a bien changé, en tout cas la perception de l'animation en France, parce qu'en 95, l'animation c'était le Club Dorothée, maintenant l'animation japonaise, c'est Miyazaki, quoi. Mais d'ailleurs, le reste, c'est quand même...
D'ailleurs, on va en reparler, c'est hormis les Ghibli, les sorties, ça a un peu vampirisé les sorties de Japanime.
On a quand même eu Osoda, on a eu Lettre à Momo.
Parce qu'Osoda, ils ont tenté un coup de poker, ils ont sorti à traverser du temps qui a marché, personne ne l'attendait, et du coup, ils ont pu
sortir de l'eau. Mais
Enfants loups a vachement marché aussi. Ça a bien marché. Mais t'avais ceux d'avant qui avaient préparé déjà, t'avais les enfants du la traversée du temps, t'avais Summer Wars qui avait déjà... Tu sentais qu'il avait un public potentiel. Puis là, ça a fait un peu à la Chihiro, c'est une histoire un peu universelle.
Non, puis il y avait aussi Digimon qui avait beaucoup marché.
Parce
qu'on retrouve un peu cet univers-là, par exemple dans Summer Wars, on retrouve un peu ce côté Digimon. Ouais.
Mais il a commencé comme ça,
ouais, il a fait
des... Et maintenant, c'est vrai que ça marche, parce que c'est apparenté aussi pour le grand public à du Ghibli. Alors que quand Ghibli est apparu, c'est vrai qu'on parle de cette période, la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu quand même des tentatives de sortir des films en salle. Il y avait Perfect Blue de Satoshi Kon, Jinro, des trucs qui n'avaient rien à voir et qui maintenant arrivent en DVD éventuellement.
Même début des années 2000, on avait eu Metropolis en salle,
Metropolis de Rintaro,
il y avait pas mal de choses.
Sorties,
il y avait des tentatives, quoi. Maintenant, Ghibli est un peu vampirisé aussi.
Ah, les films de Mamoru Oshii aussi qui sont sortis.
Oui, carrément. On avait eu Avalon, Ghost in the Shell 2. Depuis, on n'en a plus en salle. En même temps, c'est particulier. Hein,
Après Ghost in the Shell Innocence, c'est fini.
Je pense que c'était à Cannes, je me souviens, j'avais vu des reviews.
Qui est excellent par ailleurs.
Non, puis même pour le public.
Mais c'est hermétique aussi.
Pour le public de non-connaisseurs, j'ai l'impression que en fait tous les films qui sortent c'est des Ghibli en fait.
Ouais. Et si c'est pas Ghibli, ça. Voilà,
bah,
ça
parce que l'être à Momo, c'est l'esprit quoi.
C'est relié quoi.
Alors. Enfin voilà, alors que le Vent se lève, c'est quand même un film très adulte, très pessimiste. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont y aller avec des enfants de 3-4 ans et qui vont les amener voir ça. Voilà, bon, c'est un peu marketé comme ça aussi. Ils vont pas dire c'est un film sombre sur une période tragique du Japon. Voilà. Alors bon, quand tu sors Jinro ou Ghost in the Shell Innocence, tu peux difficilement le marketer pour un public pour un public enfantin quoi.
Mais c'est vrai que maintenant les distributeurs prennent plus trop de risques à sortir de la Japanime un peu différente quoi. Parce que le dernier truc hors même qui se rapprocherait de Ghibli qu'on a vu en salle, Paprika, c'était les Satoshi Kon, voilà, c'était les seuls trucs qui avaient leur propre identité. Parce vraiment
que lui aussi, il a voilà, c'était noble quoi.
Mais Tokyo Ghoul Saver n'était pas sorti en salle non plus, alors que c'est un de ses meilleurs.
Mm. Il y avait eu Paprika, pourtant qui est moins accessible que Tokyo Ghoul Saver, et pourtant.
Tokyo Ghoul Saver était sorti en salle.
Non, il n'est pas sorti, DVD directement.
T'es sûr de
ouais, sûr et certain. Ouais.
Ah, faudra vérifier parce qu'il me semblait l'avoir vu au cinéma.
Moi je pense qu'il était Millennium Actress, on l'a pas eu en salle non plus.
Perfect Blue.
Et Millennium Actress, ouais. Millennium Actress n'est pas sorti.
C'est dommage, parce que ça fait. Il y avait du potentiel en salle, quand même.
C'est peut-être le plus accessible encore,
Millennium Actress. Ouais, avec Tokyo Ghoul Saver, c'est les deux, quand même.
Bon, je pense qu'on va passer à un dernier mot, parce que sinon, on va parler toute la nuit d'animation japonaise, et on pourra faire un podcast spécial sur l'état de l'animation en ce moment. En tout cas, là, on peut vous conseiller de nouveau Le Vent se lève et puis Ghost in the Shell Innocence si vous ne l'avez pas vu, qui vous changera un peu de Ghibli des Miyazaki. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos lecteurs?
Bon visionnage et faites-vous votre propre opinion avant le prochain Ghibli.
Jérémy?
Un peu pareil que Justin et de pas vous arrêter à ce que vous attendez vraiment du film et essayer de vous laisser emporter. Comme je ne l'ai pas fait d'ailleurs.
Mais j'irai le revoir.
Malgré nos réserves, c'est à voir largement.
Évidemment.
C'est juste qu'il a élevé des standards.
Donc voilà. C'est déceptif, mais c'est un Miyazaki quoi. Ouais. Ça vaut plus mieux que la plupart de
ce qu'on voit.
Nicolas. Pareil, j'ai pas grand chose à rajouter. À voir impérativement en VO. Bon, Miyazaki a la chance d'avoir ses films d'animation distribués largement en VO en France, contrairement au Disney par exemple. Donc, voilà, faut en profiter.
Il y a beaucoup de gens de spécialistes de Miyazaki qui te diront qu'il faut voir le film en VF parce qu'en VO il y a beaucoup de choses qui se perdent dans la traduction et que les sous-titres sont pas toujours exacts et qu'en français ça arrive à retranscrire une certaine idée que Miyazaki veut faire passer.
Ça sonne tellement bien.
Ça sonne tellement bien japonais.
C'est tout dans le carton.
Ah mais j'en ai vu beaucoup dans des colloques ou dans des trucs. Je crois que dernièrement au Forum des images quand je crois que c'était au moment où il y a eu le
carrefour d'animation.
Il y a un monsieur qui parlait, j'avais vu la vidéo sur internet qui disait vraiment voyez les films de Miyazaki en VF parce que
ouais mais le problème c'est que
ceci dit les VF sont bien faites, les Ghibli ils font un effort
mais c'est pas le problème c'est que ces intonations ne sont pas du tout les mêmes donc voilà
et puis c'est un problème qui existe pour c'est pas que pour Miyazaki en fait de toute façon les sous-titres condensent forcément le sens. Donc c'est un problème général sur la VO de la VF. Et bientôt on aura un podcast sur.
C'est pas une langue latine, c'est peut-être pas les mêmes intonations, les mêmes tons. Mais bon, moi c'est dur de pas. J'adore entendre quand même le japonais.
Non, puis même si c'est la version originale, il faut voir la version originale.
Oui, en plus de toute façon.
Après, ça dépend ce qu'on cherche. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche plus une immersion dans des sonorités, et c'est extrêmement important dans un film, plutôt que juste avoir les subtilités du sens. À mon sens,
il était assez en sens, quoi. Après,
surtout qu'après coup, on les a tous vus, tous là, est-ce qu'on a l'impression, les gens revus et re-revus, d'avoir perdu, de pas avoir saisi l'essentiel, je sais pas.
Je pense qu'il faut les voir dans les versions anglaises aussi, qui généralement ont des voix de star.
C'est Georges Clooney, je crois, qui double. Non, mais...
C'est vrai qu'il y a du bon monde dans les versions anglaises, ouais. Je me souviens, je sais plus, c'était Mononoke, t'avais Gillian Anderson
à l'époque. Je pensais à Gillian Anderson pour Mononoke, qui était une grosse star.
À l'époque, bah oui. C'était Scully, quoi, quand même.
Maintenant, c'est un peu passé. Mais... bon, bah voilà. Bah, quant à moi, je vous dis
Bah, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on sera avec Jérémy au Black Movie et on vous ramènera un podcast spécial de Genève. See you, Space Cowboys.
Salut.